Jean-Jacques Rousseau était un homme extraordinaire et très humain, un précurseur dans tous les domaines qu'il a explorés. Cependant, il avait aussi des idées qui étaient tout à fait contraires à l'enseignement des Écritures et donc à la réalité. Il croyait par exemple que nous venons au monde bons, alors qu'en fait c'est l'inverse. Les enfants naissent avec beaucoup de mauvaises dispositions, tout simplement parce que leurs parents sont eux-mêmes des pécheurs de la race d'Adam et Ève. Voilà pourquoi le petit de l'homme a besoin d'être éduqué, un processus long et fastidieux qui consiste à essayer de redresser un petit peu tout ce qui est tordu. Dès son plus jeune âge, l'enfant va manifester trois attitudes qu'il faut corriger avec la plus grande fermeté. Ce sont la désobéissance, le manque de respect et le mensonge. C'est important parce que les adultes qui sont rebelles, arrogants ou qui aiment la duplicité sont imperméables à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les trois caractéristiques que je viens de mentionner décrivent bien les enseignants de mensonges qui au premier siècle s'étaient glissés dans un certain nombre d'assemblées chrétiennes. Agents du diable, leur but était de tromper. Il faut dire que depuis que le monde est monde, la vérité est assiégée et constamment l'objet d'attaques de toutes parts. Dès le jardin d'Éden, où l'Éternel avait placé l'homme et la femme, Satan a déformé la parole de Dieu et convaincu Ève de désobéir à son Créateur. Depuis, le diable, dont l'un des titres est « Père du mensonge », poursuit inlassablement et avec hargne son offensive contre la vérité de Dieu. Son objectif principal est de résister par tous les moyens à l'avancement du royaume que Dieu veut établir sur terre en la personne de Jésus-Christ, le Messie. Dans ce combat, le diable a recours à toutes sortes de tactiques, certaines violentes, mais d'autres subtiles et plus efficaces. Les tromperies les plus fourbes consistent à introduire une petite pointe de mensonge à l'intérieur d'une grande vérité. Satan utilise pour sa cause le prestige et l'arrogance des scientifiques, la soif de pouvoir et la cupidité des politiciens, et la séduction de l'argent pour les masses. Il semble qu'à partir du moment où quelqu'un occupe une position d'autorité, la vérité devient pour lui secondaire. Cela dit, le coup de maître du diable est le mensonge de la religion qui lui permet de tenir des milliards d'êtres humains dans le creux de sa main. Si on considère le bourbier politique, social, économique et religieux dans lequel notre monde se trouve, il faut reconnaître que le diable porte bien son titre de malin, car il a un succès fou. Il est très flexible. Il est prêt à se plier en quatre pour accommoder les indigènes qui vivent au rythme des esprits de la forêt, comme l'homme moderne qui ne croit en rien sinon en lui-même. Satan invente constamment de nouvelles devises. Quand j'étais étudiant, on voyait de temps en temps dans le hall du Resto U une ligue de gauche installée, une table de littérature sous une banderole sur laquelle était écrit « La religion est l'opium du peuple ». Un peu plus loin, une autre disait « Faites l'amour et pas la guerre ». La mode était alors de croire que Dieu était une lubie, une invention humaine, la religion un moyen d'échapper à la réalité, l'homme un singe évolué qui se pose trop de questions et qui réprime trop de pulsions inassouvies, la morale une affaire de goût personnel qui ne regarde personne, l'amour un art qui demande à être pratiqué, et la vie une jungle qu'il faut changer par la force. Le plus grave, cependant, est que Satan arrive aussi à tromper de véritables croyants en jouant sur leur nature de péché et leur passion toute humaine. Cependant, en dépit de ces victoires, ces jours sont comptés car la vérité et la justice finiront par triompher lorsque le royaume éternel du Christ sera établi. À ce moment-là, le diable et ses acolytes seront mis hors d'état de nuire à tout jamais. Cependant, nous n'en sommes pas encore à cette dernière phase de l'histoire humaine, et en attendant l'heure de Dieu, Satan est toujours bien présent. En conséquence, les croyants sont constamment mobilisés sur le pont. Ils ne doivent jamais baisser les bras, mais continuer à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Leur mandat est de rester fidèlement attachés à la vérité, en s'opposant et en résistant à tout ce qui est contraire à l'enseignement apostolique. L'apôtre Paul a exhorté son disciple Timothée en lui disant « Tu as entendu de moi des paroles de vérité, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. » Fin de citation. L'ordre de mission transmis à Timothée concerne aussi tous les fidèles à Jésus-Christ et davantage encore les responsables d'assemblée, parce que ce sont eux qui ont la charge de veiller et de prendre soin du troupeau de Dieu. Jude, frère de Jacques et demi-frère de Jésus, comprend parfaitement les enjeux de son époque. Comme il savait que la connaissance du Seigneur se répandait dans l'Empire romain comme une traînée de poudre, il n'a probablement pas été surpris d'apprendre que des apostats, des ennemis de la bonne nouvelle, s'étaient infiltrés dans certaines assemblées chrétiennes. Il sait qu'un rude combat se prépare parce que dans le cadre de sa longue guerre contre la vérité, Satan a mis au point une nouvelle campagne pour tromper les croyants et freiner la croissance des églises. Pour cette raison, Jude a pris sa plume dans le but d'informer ses lecteurs des dangers qui les guettent. Pareil à un officier supérieur qui décrirait à ses troupes l'ennemi qu'ils vont devoir affronter, Jude brosse pour ses lecteurs le portrait de leurs adversaires. Je continue à lire dans le livre de Jude. « J'ai été dans la nécessité de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. » Verset 4. Jude ne parle pas ici de possibilité, mais de certitude. Des gens dangereux, parce qu'ils enseignent des mensonges, sont déjà présents dans certaines assemblées, prêts à faire leur sale besogne de destruction. Le mot traduit par « glisser » n'est employé qu'ici. Il signifie « entrer à l'intérieur, sur le côté », c'est-à-dire « en douce » avec l'intention évidente de causer des torts. Dans le monde grec, ce mot décrivait un avocat véreux qui, au moyen de paroles doucereuses, parvenait à embobiner les membres du tribunal et donc de les tromper au sujet de son client. Les enseignants de mensonges auxquels Jude fait référence sont entrés dans l'Église sans difficulté parce qu'ils disaient adhérer sans réserve à la confession de foi apostolique, bien qu'en réalité ils avaient une toute autre opinion. Bien évidemment, ils n'ont jamais déclaré ouvertement leur position doctrinale, car leur intention était de tromper les croyants et d'imposer leurs croyances à l'assemblée qu'ils avaient noyautée. L'apôtre Paul aussi a eu maille à partir avec des hérétiques. Il écrit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. » Il va sans dire que dans le monde, les faux prophètes et les menteurs de tout poil sont légion. Ils propagent des inepties et s'opposent à Dieu et au Christ. Jésus a dit à ses disciples « Faites attention à vous-même, on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. » Fin de citation. Cependant, toutes ces crapules et vendeurs de poudre de perlimpinpin ne présentent pas de véritable danger pour l'Église du Christ. Ceux qu'il faut craindre sont les apostats qui ont une position reconnue à l'intérieur d'une assemblée et qui portent un masque de carnaval. Les attaques qui proviennent de l'extérieur ont le plus souvent pour seul effet d'unir encore davantage le peuple de Dieu contre les mécréants. Par contre, les enseignants de mensonges répandent un poison insidieux qui est mortel pour l'Église. C'est un peu comme l'eau qu'on chauffe doucement et dans laquelle se trouve le homard. La pauvre bête ne s'aperçoit de rien et s'endort avant de finir dans les assiettes. La fausse doctrine a le même effet, et quand quelqu'un tire enfin la sonnette d'alarme, c'est souvent trop tard car le troupeau de Dieu est divisé et dans la plus grande confusion. Aujourd'hui, les enseignants de mensonges écrivent des livres et enseignent dans des facultés de renom. Ils donnent des conférences, prêchent en chaire et séduisent beaucoup de gens. Derrière ces faux frères qui sont déguisés en défenseurs de la vérité, il y a Satan, parce que c'est lui qui sème la mauvaise herbe dans le bon blé. Jude ne donne aucun renseignement concernant l'identité des apostats ou le contenu de l'enseignement mensonger qu'il propage, parce qu'il estime ces détails sans importance. Et il a raison, car les hérésies vont et viennent, elles suivent des modes. Ce qui compte est de rester fidèle à l'enseignement des apôtres, indépendamment des tendances religieuses du moment. Aujourd'hui, par exemple, sous nos tropiques, ça fait presque chic de se convertir à l'islam. Je continue le texte de Jude. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Verset 4. Le mot pour « écrite depuis longtemps » suggère que le châtiment des apostats a été prononcé de longue date, en fait depuis toujours. Un peu plus loin, Jude rapporte les propos du patriarche Hénoch de la 7e génération après Adam, qui annonçait déjà la fin des suppôts de Satan. Et l'un des thèmes communs à presque tous les prophètes de l'Ancien Testament, fidèles à l'Éternel, est la condamnation sévère des faux prophètes. Enfin, plusieurs passages du Nouveau Testament prédisent leur jugement. L'apôtre Pierre en particulier n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il écrit « Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien, lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. » Fin de citation. Comme le verdict de condamnation a déjà été prononcé contre les apostats, leur jugement est inéluctable. Je continue le texte. « Car il s'est glissé parmi vous des impies qui n'ont aucun respect pour Dieu, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Verset 4. Il est évident que les apostats de toutes les époques, que ce soit celle de Jude ou la nôtre, sont caractérisés par l'impiété dans le sens où l'entendent les Écritures, c'est-à-dire qu'ils prétendent servir Dieu alors qu'en réalité, qu'ils en soient conscients ou pas, ils servent leurs propres intérêts, leurs ambitions ou leurs passions. Et il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. La pratique de la génuflexion à tour de bras n'est pas une preuve de piété, mais de la poudre aux yeux. Les enseignants de mensonges du temps de Jude n'étaient pas aussi subtils que ceux d'aujourd'hui qui se préoccupent des apparences. En effet, il semble qu'une fois que les apostats se sentaient acceptés dans l'Église, ils se comportaient ouvertement comme des impies. Ce mot était utilisé par les croyants du 1er siècle pour désigner les hérétiques. Les enseignants de mensonges jouaient à être religieux, mais n'avaient pas la foi qui sauve, ce qui est évident par leur façon de vivre immorale et contraire à toute éthique chrétienne, puisqu'ils menaient une vie licencieuse. Le mot traduit par « dérèglement » signifie « sensualité débauche, indécence ». Les apostats se laissent aller à leurs passions et désirs charnels, puis ils justifient leur conduite en disant que, sous le régime de la grâce, tout est permis. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là! Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Le troisième reproche de cette triade que Jude adresse aux apostats est qu'il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Soit dit en passant que ce double titre souligne bien l'autorité du Christ autant sur son Église que sur l'univers entier. Mais ce n'est pas du tout ainsi que les enseignants de mensonges considèrent Jésus qu'ils refusent de reconnaître comme le Seigneur, le souverain Maître et Dieu le Fils. Il ne lui accorde pas l'honneur, la déférence et la juste position qui lui revient de droit. Il confirme ainsi que ce sont des imposteurs religieux. Concernant des faux frères qu'il a dû combattre, l'apôtre Paul écrit « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. » Et l'apôtre Pierre dit « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discrédité. Tous les faux frères n'apportent pas la même fausse doctrine, car Satan sait très bien qu'il en faut pour tous les goûts. Mais n'ayez crainte, il en a toute une palette qu'il sera heureux de vous présenter et vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Pour lui, c'est tout du pareil au même, car ce qu'il veut est que vous croyiez à un mensonge, peu lui importe lequel, car tous vous condamneront. Comme je l'ai déjà noté, il est quasi certain que les apostats dont parle Jude sont des précurseurs du mouvement qui se développera au second siècle et qui prendra le nom de gnosticisme. Dans leur conception du monde, tout ce qui est matière fait partie du mal, tandis que tout ce qui émane de l'esprit est bon. Une telle croyance a plusieurs conséquences. Au niveau théologique, ces apostats rejetaient la double nature du Christ parce que, selon leur perspective, Dieu ne se serait jamais abaissé à revêtir un corps humain. L'apôtre Jean les condamne sévèrement et les appelle des antichrists. La croyance gnostique avait une influence sur la foi, mais aussi sur l'éthique. En effet, puisque la façon dont on traite son corps n'a aucune espèce d'importance, on peut en faire ce qu'on veut. Certains, influencés par les ascètes grecs, se privaient des soins les plus élémentaires, ils ne se lavaient jamais et ne mangeaient pratiquement rien. C'est d'ailleurs ce qu'a aussi fait le Bouddha, qui n'était pourtant pas gnostique. À un moment de sa vie et dans sa quête de la vérité, il ne mangeait qu'un grain de riz par jour. J'ai bien dit un grain, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était peut-être pas la bonne voie. Mais il existait aussi des précurseurs gnostiques qui n'étaient pas du tout attirés par une vie de moine pure et dure et qui préféraient opter pour un style de vie diamétralement opposé. C'étaient des jouisseurs toujours prêts à satisfaire leurs moindres pulsions. Ce sont ceux-là qui avaient infiltré les assemblées chrétiennes et que Jude condamne vertement. Je suis en train de penser qu'ils ont fait beaucoup d'émules, car, si je ne m'abuse, la plupart de nos contemporains sont comme des gnostiques libertins, sauf qu'ils ne s'encombrent d'aucune philosophie. Ce sont des jouisseurs. Un point, c'est tout.